On nous parle de Dieu depuis qu'on est tout petit. On nous enseigne pour nous dire qui est Dieu. Et j'avoue être un peu gêné depuis mon enfance sur le fait que l'on présente Dieu aux tout petits enfants d'abord comme un vieux monsieur avec une barbe sur un nuage. Ensuite, on nous dit qu'il est comme un père, comme un roi. On nous dit qu'il est finalement plus comme un homme que comme une femme. Et c'est vrai que toute cette image de Dieu, tous ces discours sur Dieu, eh bien, manquent, à mon avis, cruellement de féminité. On lui attribue la force, on lui attribue le jugement, on lui attribue la loi. Et si on nous dit qu'il est bon, c'est pour pardonner, mais pour faire grâce de très haut. Je fais grâce. Et finalement, c'est vrai que tout est quand même très masculin dans notre religion. Dieu, il est homme. Jésus, il est homme. Les apôtres, ils sont hommes. Et dans l'Église, les pasteurs étaient en tout cas toujours des hommes. Tout ça est dirigé par des hommes. Bref, il y a des barbes partout. Et où est le féminin là-dedans? Où est la douceur, l'intuition, la tendresse et l'amour? Parce que nous en avons besoin. Peut-être plus que quelqu'un qui nous regarde, qui nous juge et qui peut nous envoyer en enfer ou au paradis. Alors vous me direz, certes, on attribue un peu tout ça à Dieu quand même, et surtout dans le Nouveau Testament. Mais il n'empêche que même dans le Nouveau Testament, Dieu reste fondamentalement un homme. Et ça, je trouve ça dérangeant. Jésus, quand il dit sa grande prière, il dit « Quand vous vous adressez à Dieu, dites « Notre Père ». Question, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas à Dieu « Notre Mère » ? Après tout, moi j'ai eu un père qui a beaucoup compté sur moi, mais ma mère, ça n'était pas rien, elle a aussi compté pour moi. Et si nous n'avons qu'un père dans les cieux, alors nous sommes à moitié orphelins. Et dans ce « Notre Père », ce Dieu reste finalement très viril. On conclut à la fin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Eh bien, parfois, j'aimerais pouvoir prier et dire à Dieu, ma douce maman, ma tendre mère qui est dans les cieux, à toi appartiennent la tendresse, la bonté, la douceur et l'amour. Mais voilà. Ça n'est pas ce qui nous est enseigné. Dieu reste Père avant tout. Et j'ai parfois l'impression, effectivement, d'être ainsi dans une sorte de famille monoparentale. Il me manque quelque chose. Et je trouve ça assez curieux. On avait d'ailleurs choisi ce sujet bien avant que toutes ces questions de parentalité se posent dans notre société. Mais puisque aujourd'hui, on nous parle de l'égalité des sexes, il faut bien reconnaître que, je dirais, du point de vue de cela, la religion chrétienne est quand même très dissymétrique. Et finalement, même les hommes, comme moi, ça va à la limite, ils ont un Dieu qui est homme comme eux. Donc j'ai un Dieu, je m'identifie. Mais les femmes, je me suis toujours demandé comment elles pouvaient croire en Dieu, dans un Dieu qui n'est pas comme elles. Alors vous m'expliquerez, moi je ne suis pas femme, mais j'imagine que ça ne doit pas être extrêmement simple, et en tout cas, je trouve que cette religion est dissymétrique, c'est-à-dire que si Dieu est père, alors les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à Dieu. Et moi, ça me gêne, parce que Paul nous dit bien qu'en Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Donc normalement, dans la foi, ça ne devrait pas intervenir, le fait d'être d'un sexe ou d'un autre. Alors je vais vous dire, ce problème n'est pas neuf. Et je ne suis pas le premier à me poser cette question. Ce qui fait que, quand on regarde l'histoire des religions, on s'aperçoit que de tout temps, eh bien, on a essayé de trouver des solutions à cette question. Et la solution la plus simple, la plus ancienne, la plus archaïque et la plus évidente, eh bien, c'est d'ajouter à Dieu, au Dieu Père, une autre divinité qui serait une divinité mère féminine. Voilà, comme ça on complète le dispositif et on a Dieu Père, et on a une déesse mère à côté, et on a ainsi une sorte de divinité qui représente l'ensemble de l'humanité, ce qui est la moindre des choses. L'idée est simple, et comme je vous dis, elle est extrêmement ancienne, puisque la recherche théologique a montré que, en fait, pendant des siècles et des siècles, dans le peuple d'Israël, il y a eu la croyance dans un Dieu Père qui s'appelait Yahvé, et aussi dans une mère qui était l'épouse de Dieu et qui avait un nom. Et donc, pendant des siècles en Israël, il y avait deux divinités, une masculine et une féminine, une qui s'appelait Yahvé et l'autre qui était sa femme, et qui s'appelait... Alors, comment s'appelait-elle? Ça, c'est très compliqué, parce qu'on trouve son nom dans la Bible, mais les traductions ont tout fait pour le gommer et l'effacer. Parce que ce que je vous dis a quelque chose d'un peu scandaleux pour ceux qui ont une conception simple de la Bible. Là encore, on m'a appris quand j'étais enfant que la Bible, c'est Dieu qui avait tout révélé à Israël petit à petit. Et tout à coup, découvrir que le peuple d'Israël a pu s'égarer dans le polythéisme et s'égarer dans l'idée d'avoir deux dieux, un dieu avec sa femme, c'est très troublant. Pourtant, l'archéologie est formelle, c'est bien ainsi. Le nom de la femme de Dieu, j'ai longtemps cru, quand j'étais enfant, qu'elle s'appelait Clémence. Parce qu'on me disait depuis que je suis tout petit que l'Éternel vient avec sa grande clémence. Et je croyais que c'était le nom de la femme de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas ça, évidemment, vous vous en doutez. Le nom de la femme de Dieu, très sérieusement, s'appelait, on le sait aujourd'hui, Asherah. Asherah, c'était le nom de la femme de Yahvé. C'est un joli nom, d'ailleurs, qui veut dire en hébreu le bonheur au féminin. Et les spécialistes nous disent donc que le culte d'Asherah, la femme de Yahvé, est resté très longtemps en Israël. Au départ, c'était une des divinités principales des Cananéens qui croyaient dans un dieu El, qui est le même nom que le dieu d'Israël, ils ont récupéré le dieu des Cananéens, et que ce dieu El avait une épouse qui était Asherah. Et puis que cette Asherah a été adorée à l'époque des juges et jusqu'au moment des rois, et que Salomon aurait même introduit dans le temple de Jérusalem le culte d'Asherah. Ensuite, il y a eu, vous savez, la séparation des deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, et qu'à ce moment-là, Asherah a continué d'être adorée en Samarie, c'est-à-dire dans le royaume du nord, et ce, jusqu'à l'exil, c'est-à-dire jusqu'en moins 500 avant Jésus-Christ. Et on a retrouvé plusieurs inscriptions, des poteries, des gravures, où on voit un dessin d'une femme bien féminine, avec écrit dessus « Yahvé », donc le nom de Dieu dans la Bible, « Yahvé et son Asherah ». Alors tout cela, est, je vous l'ai dit, est assez révolutionnaire, et tout a été fait pour cacher la chose. Ne serait-ce que le mot « Asherah », donc le nom de la femme de Dieu, se trouve 40 fois dans l'Ancien Testament. Mais si vous ouvrez votre Bible second, 1910, vous verrez que second, dans les 40 fois où il y a le mot « Asherah », l'a toujours fait disparaître. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que dans nos traductions, le mot n'apparaît jamais. Et il est remplacé par « idole »,« poteau », »,« pieu », ce qui n'est pas très élégant pour une femme. Mais enfin, c'est toujours en tout cas comme ça que second traduit. Et parfois même, il a totalement supprimé le verset où il était question d'Asherah. Par exemple, Deutéronome 33, verset 2. Vous pouvez chercher dans vos Bibles, le verset n'y est pas, mais il est dans tous les textes hébreux, où il est écrit « Yahvé est venu du Sinaï, il a resplendi depuis le Séhir, il est apparu du mont Paran, il est arrivé parmi les myriades de Kotsou, à sa droite, son Asherah. » Donc Yahvé vient, et à sa droite, il y a son Asherah, sa femme, Madame Dieu. Et ça, évidemment, pour second, c'en était trop, et donc il a enlevé à sa droite son Asherah. Et ensuite, plus tard, les prophètes qui ont écrit après l'exil n'ont pas cessé de lutter contre ces vieilles croyances et ces vieilles adorations d'une divinité féminine. Et le fait qu'ils luttent contre ça prouve que ça a existé. Et vous l'avez entendu en Jérémie 44 qui reproche aux Israélites de faire un culte à la reine du ciel. Et les Israélites qui disent « Mais écoutez, je vois pas le problème, nous on l'a toujours fait, nos maris aussi, nos ancêtres aussi. » Et dit le texte de Jérémie, et également nos rois et leurs ministres. Ce qui prouve que ce culte à la reine du ciel a évidemment existé pendant des siècles, très longtemps en Israël. Donc il y avait ainsi une divinité équilibrée, Yahvé et son Asherah. Et finalement, je dirais que ces gens étaient peut-être moins barbares que nous, qui simplement avons tué Asherah et laissons Dieu comme une sorte de veuf, bougon et inconsolable, qui finalement est incapable de donner à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Cela dit, je comprends, effectivement, progressivement, Israël a voulu aller vers un certain monothéisme et dire on veut un seul Dieu. Mais un seul Dieu, c'est une bonne idée, mais cela dit, ce n'est pas le tout de lutter contre l'adoration d'une femme divine, mais il faut traiter la cause. Et si l'on veut un Dieu unique, alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de mettre dans ce Dieu unique autant de masculin que de féminin. Il n'y a pas d'autre solution, si vous voulez. Soit vous avez deux dieux, un masculin, un féminin, si vous voulez un seul Dieu, la seule solution, c'est qu'il soit autant masculin que féminin, c'est-à-dire qu'il soit à la fois père et mère. Alors vous me direz, c'est un peu osé, ça remet en cause pas mal de choses dans la théologie, mais pas tant que ça. Parce que si vous regardez bien dans l'Ancien Testament, vous découvrirez que le Dieu de l'Ancien Testament est finalement peut-être encore plus féminin que masculin. Et ça, je peux vous le prouver. D'abord parce qu'on nous dit que le principal attribut de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la miséricorde. Bon, la miséricorde, c'est une forme d'amour, de compassion. Or, voilà une chose curieuse, la miséricorde en hébreu, ça se dit racham, et que racham en hébreu, ça veut dire le ventre maternel, le sein maternel, techniquement l'utérus, qui est une chose peu portée par les hommes. Et ainsi, la miséricorde de Dieu, ce qui est vraiment sa qualité première, essentielle pour les prophètes, pour les psaumes, pour toute cette grande tradition biblique, la première qualité de Dieu, c'est la miséricorde, c'est-à-dire le sentiment qu'une mère porte, le sentiment qu'une mère a pour l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Et c'est ça le sentiment de Dieu. Donc on a, voyez-vous, un Dieu infiniment, je dirais, maternel, qui enfante et qui aime l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Et puis ça n'est pas tout. On nous dit aussi, et là encore la tradition a essayé de le cacher, mais on ne peut pas tout cacher. On nous dit aussi dans la Bible que Dieu porte deux mamelles. Alors ça c'est un peu osé, mais je vais vous l'expliquer. Un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est El Shaddai. El Shaddai, c'est un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, ça apparaît pas mal de fois. Et là, il y a une dispute de spécialistes. Les Juifs, depuis 3000 ans, disent que El Shaddai vient du mot hébreu shed, qui veut dire la mamelle, et Shaddai, c'est une forme plurielle duel en hébreu, qui veut dire une chose qu'on a en deux. Et donc El Shaddai, ça veut dire le Dieu aux deux mamelles, aux deux seins maternels. Et voilà que si vous lisez votre Bible second, qu'il va falloir un jour ou l'autre mettre aux orties et apprendre l'hébreu, eh bien vous verrez que chaque fois qu'il y a El Shaddai, second a mis le Tout-Puissant. Alors là, allez savoir pourquoi. En fait, si. Il le justifie en disant « Shaddai ne vient pas de Shed, la mamelle, mais ça vient de Shaddad, qui veut dire dévaster, brûler, détruire. » Et donc, c'est l'image d'un dieu redoutable qui détruit, qui brûle, qui dévaste. Bon, ça ne me convient pas trop. Et en plus, c'est absolument injustifiable. Le verbe « Shaddad » existe bien dans l'Ancien Testament, mais n'a jamais Dieu comme sujet. C'est un verbe négatif. Je ne vois pas comment on peut attribuer à Dieu ce type de choses. Et donc, ce Dieu Shaddai n'a rien à voir avec une puissance destructrice. C'est bien, malgré ce qu'en disent les quelques chrétiens un petit peu coincés depuis quelques années, c'est bien le Dieu aux deux mamelles. C'est le Dieu qui est nourricier. Et j'en ai la preuve explicite dans la bénédiction de Jacob. Jacob dit une bénédiction à ses enfants. Et là, on cite le Dieu Shaddai. Et c'est ça, je vous cite le passage, écoutez bien. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre de El Shaddai, ce Dieu, alors, tout-puissant ou au mamel, je ne sais pas, mais la suite est claire. C'est l'œuvre de El Shaddai qui te bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions des mamelles, Shaddai, et du ventre maternel, Raham. Et donc ce Dieu qui nous bénit de la bénédiction des deux mamelles, Shaddai, et du ventre maternel, Raham, c'est-à-dire d'enfanter et de nourrir. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la Bible, tous les endroits où il est question de Dieu Shaddai, à chaque fois, il est question de fécondité et d'enfantement. Pas de destruction, certainement pas. Là, c'est Jacob qui parle de tous ses enfants, et c'est à chaque fois que Dieu Shaddai arrive, ce n'est que tendresse, qu'amour, fécondité, enfantement, jusque dans le Nouveau Testament, où là encore, le Dieu Shaddai réapparaît d'une façon cachée dans le Magnificat. Quand Marie dit « Le Puissant a fait pour moi des merveilles », tiens, on retrouve ce Tout-Puissant-là, qu'on a traduit à je ne sais plus quelle époque, qu'on a utilisé pour traduire le mot Shaddai. Donc quand Marie dit « Le Puissant a fait pour moi des merveilles », elle n'a pas dit ça, elle a dit « El Shaddai a fait pour moi des merveilles ». Et la merveille, c'est qu'elle enfante Jésus une fois de plus. Donc on est bien encore dans cette fécondité maternelle. Et puis c'est pas tout, je pourrais passer la matinée, mais tenez, quel est le principal attribut de Dieu encore après l'amour ? Eh bien, c'est l'esprit. Et là encore, le français nous trompe, parce que l'esprit, qui est le souffle qui donne la vie, et on nous dit que Dieu, il est justement toujours avec son Saint-Esprit, et l'esprit, en hébreu, ruach, c'est féminin. Et quelle est encore autre chose ? On nous dit aussi que Dieu est amour, mais l'amour, en hébreu, ahava, c'est féminin. Et donc tous les attributs de Dieu en hébreu sont féminins. L'esprit, féminin, l'amour, féminin. Et quand on nous dit « Dieu est esprit », on nous dit que Dieu est une réalité féminine. La ruach, l'esprit féminin qui donne la vie. Quand on nous dit « Dieu est amour », on nous dit que Dieu, il est ahava, l'amour féminin. Donc vous voyez que Dieu est féminin, et encore plus explicitement, tenez, en Ésaïe 66, où le prophète dit « Comme une mère console ses enfants, ainsi moi, l'Éternel, je te consolerai. » Donc vous voyez que finalement, en cherchant bien, ce Dieu de l'Ancien Testament est certainement plus féminin que masculin. Et je pense que nous avons eu le tort d'oublier une grande partie de tout cela. Et donc je crois qu'il faut conserver dans notre foi cette dimension féminine de Dieu. Et c'est là d'ailleurs un des héritages fondamentaux de la Réforme, où les réformateurs ont justement changé d'image de Dieu. Et Dieu à la Réforme cesse d'être un Dieu redoutable, terrible, puissant et lointain, pour être un Dieu proche, un Dieu qu'on tutoie, pour être un Dieu d'amour, de miséricorde, de proximité et de tendresse. Et donc je crois que le Dieu des réformateurs est très différent du Dieu qu'on prêchait au Moyen-Âge. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Réforme s'est si bien passée de la Vierge Marie. Parce qu'il n'y a pas besoin d'une déesse mère, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui nous comprend et qui viendrait intercéder pour nous auprès d'un Dieu redoutable. Puisque Dieu est lui-même mère et que lui-même nous comprend et qu'il n'est pas redoutable. Mais ce n'est pas le tout, en tant que protestant, de dire « je ne veux pas croire dans la Vierge Marie ». Si vous n'attribuez pas à Dieu lui-même toutes les qualités que la tradition médiévale attribuait à la Vierge Marie, eh bien, vous faites plus de mal que de bien. Et donc, il faut garder les deux. La maternité, la féminité, la douceur doivent être comprises en Dieu lui-même. Et il faut garder les deux. Dieu est à la fois un père et une mère. Sinon, il y a déséquilibre. Mais pour moi, je crois que c'est très important d'avoir un Dieu unique. Je vous l'ai dit, la solution la plus archaïque, c'est de mettre deux personnes. Il y a la virilité d'un côté, la féminité de l'autre, Yahvé et son Achéra, il y a Dieu et la Vierge Marie. Donc on sépare, si vous voulez, les rôles, en quelque sorte, comme un couple. Mais moi, je pense que ça n'est pas bon. Parce que, justement, je pense que ce qui est essentiel, c'est de dire qu'en Dieu, les rôles sont réunis, en quelque sorte, et que les rôles s'unissent. Et de montrer que ces qualités qu'on attribue à l'homme ou à la femme ne s'opposent pas, mais qu'elles se complètent. Et que, justement, Dieu arrive à faire la synthèse entre les deux et qu'il n'y a plus en lui d'opposition entre l'homme et la femme. Et donc Dieu réconcilie, si vous voulez, et subsume en lui-même tout l'ensemble de ces deux dimensions, masculine et féminine. On a ça d'une façon plus subtile, bien sûr, dans la création de l'homme. On nous dit en Genèse 1, 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il le créa. » Et les théologiens disent, ben, vous voyez bien, Dieu crée l'humain à son image et il le crée homme et femme. Ça veut dire que Dieu lui-même est homme et femme, puisque l'image de Dieu, elle est masculin et féminin. Et donc Dieu est bien les deux dès le commencement de la création. Et il y a un tableau bien connu de Rembrandt qui exprime ça par la peinture. Vous le savez, le tableau qui représente le retour du fils prodigue et où on montre le père qui accueille son enfant et on voit ses deux mains. Et on voit une main d'homme et une main de femme, c'est-à-dire que le père du fils prodigue, qui représente Dieu, pour Rembrandt, a à la fois la masculinité et la féminité. Il y a effectivement une grosse main d'homme et une main de femme posées juste l'une à côté de l'autre. Et je crois que Rembrandt a là compris une chose très essentielle, c'est que la masculinité et la féminité se trouvent réunies en Dieu lui-même. Bon, maintenant, ces questions deviennent complexes dans le contexte actuel de parentalité, de genre et tout ça. Et donc, ça demande quelques précautions supplémentaires. Ce que j'ai dit des rôles ne sont que les rôles traditionnels de notre culture occidentale. Et je dirais plus anciennement de nos racines dans une société patriarcale de modèle oriental, donc pour la tradition biblique. Donc, eux attribuaient un certain nombre de qualités à l'homme et à la femme qui ne sont peut-être pas inhérentes, je dirais, au sexe. Et donc, dans ces rôles, dans ces attributs, qu'est-ce qui vient de la nature et qu'est-ce qui vient de la culture? Je ne voudrais pas me mêler d'y répondre. Sans doute un peu des deux. Bon, il est vrai qu'une femme enfante et allaite, ça, on ne peut rien y faire. Et que de tout temps, en tout cas autrefois, l'homme allait travailler dehors, allait chasser, faisait la guerre en tuant alors que la femme donnait la vie. Donc ça, ce sont les rôles archaïques, mais nous ne sommes plus à l'âge préhistorique. Et aujourd'hui, il y a des femmes générales et il y a des pères qui donnent le biberon. Il y a des femmes redoutables chasseresses et il y a des hommes infiniment tendres. Et donc les choses sont plus compliquées. Ça ne me dérange pas parce que je crois que là, je dirais, la culture est justement faite pour compléter ou corriger, en quelque sorte, la nature. Et donc, ces qualités qu'on attribue symboliquement au père peuvent être présentées par une femme et inversement, mais ce qui est vrai, c'est que pour grandir, un enfant a besoin de la complémentarité, de la loi et de la tendresse. Mais les rôles peuvent être plus symboliques que réellement sexuels. Mais en tout cas, donc je ne réponds pas à la question d'actualité, mais ce que je crois, c'est que, quel que soit le contexte, aucun humain ne peut prétendre réunir à lui seul toutes les qualités dont on a besoin pour vivre et pour grandir, à moins de se prendre pour Dieu. Et idéalement, il faut être deux pour pouvoir se compléter, et c'est ça le couple. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'en Dieu, qui est mon sujet, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons le Père et la Mère. Nous avons la rigueur et la tendresse, la justice et le pardon. Nous avons la vérité et l'amour. Et c'est dans cette ambiguïté, dans cette dialectique permanente qui est en Dieu, que nous pouvons grandir et vivre. Et que la pertinence d'une théologie, à mon avis, se mesure justement à la capacité d'avoir une conception complexe de Dieu qui sort des images trop simples, monolithiques, je dirais, ou même monosexuées. Par conséquent, même si vous dites « notre Père qui est aux cieux », dans votre esprit, vous devez penser, à mon avis, notre Père et Mère qui est aux cieux, ou notre parent, effectivement, c'est la mode. On enlève Père et Mère, on met parent. Eh bien, pourquoi pas notre parent qui est aux cieux ? Parce que Dieu n'est pas plus Père que Mère. Dieu est les deux à la fois. Alors, il faut bien un terme, alors on va dire Père, pourquoi pas, mais dans notre esprit, il faut comprendre que c'est un Père moderne, ce Dieu-là. Ce n'est pas le Père redoutable qui n'embrasse même pas ses enfants et qui ne fait que les gronder et leur donner la loi quand ils ne marchent pas droit. Ce n'est pas le Père qui simplement ne nourrit pas ses enfants et sort pour aller faire la guerre, pour se battre, pour chasser, voire pour tromper sa femme. Mais c'est un Père moderne comme on voudrait qu'il soit nous aujourd'hui, c'est-à-dire un Père capable de force, de vigueur, mais aussi de tendresse, d'amour et de fidélité. Et c'est compliqué, parce que nous avons tous des images du Père parfois troublées par l'expérience que nous avons eue de notre propre Père. Et donc ce Père du notre Père doit être sans arrêt reconstruit, je dirais intellectuellement, comme étant ce Père idéal, qui est un Père certainement viril, mais qui est comme le Père de l'Ancien Testament, qui porte aussi un ventre maternel et des mamelles pour nous nourrir. Parce que nous avons besoin des deux. Et ça, c'est une loi de la nature universelle, de même qu'une plante ne peut pousser que si elle a à la fois du soleil et de la pluie, et que c'est dans cette complémentarité que la vie peut naître. Et Dieu lui-même ne peut être pour nous source de vie que s'il est justement à la fois cette dialectique et cette complémentarité, et s'il est l'individu unique, qui nous montre que la dialectique n'est pas une explosion de contraires, mais au contraire une synthèse, et que lorsque les deux se réunissent, lorsque l'amour, la vérité se réunissent, lorsque le pardon et la justice se réunissent, eh bien on a la vie. Et c'est ce Dieu-là dans lequel nous croyons, et c'est ce Dieu-là qui peut nous donner la vie et tout ce dont nous avons besoin pour l'éternité. Amen.